9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé sur Beurre FM, et ça me fait plaisir de vous retrouver, de vous dire à votre santé. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h et nous allons prendre un avion pour le Brésil où nous retrouvons ce matin Nasrin Reza. Bonjour Nasrin.
Bonjour Philippe, ravi d'être avec vous.
Ben écoutez, vous me faites rêver, hein. Vous êtes où précisément ce matin Nasrin?
Alors à Florianópolis, c'est à 1 heure de vol de São Paulo, dans le sud du Brésil.
Voilà, et c'est magique puisqu'on peut faire à la fois de la radio et être avec vous au Brésil. Vous êtes enseignante et conférencière et vous publiez La Nutri-Émotion, une nouvelle voie de guérison et d'épanouissement aux éditions Erol, sous-titré Le pouvoir de l'eau et des émotions. Ça, la Nutri-Émotion, c'est votre truc, hein, c'est votre méthode que vous avez créée.
Oui, tout à fait, on peut dire ça comme ça.
On a le temps ce matin de voir ce qu'il y a dedans. Alors vous avez une aptitude naturelle, c'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce que vous voyez de lui?
Alors ça dépend d'une personne à une autre. Je peux recevoir des informations en lien avec une problématique que la personne vit à ce moment-là, ou un problème physique, un blocage émotionnel. Voilà, il peut y avoir différentes informations selon la personne qui sera là en face de moi.
Ouais, vous faites des bilans, dites-vous, intuitifs de l'état de santé des gens que vous rencontrez. Et à quel moment est-ce que vous avez découvert cette aptitude chez vous?
Alors, je l'ai découverte quand j'avais 5 ans. Quand je me rendais à l'école et quand j'ai vu une femme avec un enfant qui avait à peu près mon âge, je me suis naturellement dirigée vers cet enfant en lui parlant de son problème physique, qui était en l'occurrence ici une leucémie. Et quand je me suis aperçue que la maman me regardait de manière très étonnée, choquée, apeurée et qu'elle me rejetait violemment, c'est là que je me suis dit qu'il y avait un problème. Et c'est à cet instant-là que j'ai compris qu'on n'était pas tous pareils et que j'étais dotée de cette intuition, hein, que tout le monde possède, à différents degrés peut-être, ou selon comment notre fort intérieur est écouté. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçue que j'avais cette faculté, entre guillemets. Mmh.
Vous l'avez travaillé ensuite, cette intuition?
Non, alors je ne l'ai pas travaillé. J'ai plutôt essayé de l'éviter. Mon travail allait plutôt dans le sens inverse. C'était de ne plus entendre cela pour pouvoir avoir une vie sociale un peu plus épanouissante.
Pourquoi? Ça faisait peur aux gens? Ça vous envahissait?
Oui, en effet. Il y a pendant une longue période, entre 5 et 15 ans, J'étais vraiment dans un état de lutte féroce face à cette faculté, face aux informations que je recevais, et j'avais vraiment envie de redevenir normale, chose qui était une mission impossible, malheureusement ou heureusement.
Alors, il y a un peu plus de 20 ans, vous décidez de vous débarrasser de votre surcharge. Quand on parle de surcharge, c'était quoi exactement, Nasrin, cette surcharge?
Alors, il s'agissait d'une surcharge pondérale qu'il y avait, pas extrême, mais qui se faisait bien sentir. Une surcharge émotionnelle, un état d'hypersensibilité qui ne me permettait plus vraiment de fonctionner correctement. Une surcharge de pensée mentale qui m'envahissait tout le temps. Et donc, voilà, il y avait de la dépression qui accompagnait cette surcharge aussi. Donc, une surcharge, j'ai envie de dire, de lutte envers moi-même, fondamentalement. J'étais vraiment en guerre à ce moment-là. C'était ça, la surcharge, principalement.
Ouais. Alors, vous avez rencontré de nombreux spécialistes, hein, des spécialistes de la nutrition, mais pas que, hein.
Oui, tout à fait. J'étais tellement désespérée à un moment donné que je me suis dit qu'il fallait que je fasse appel à des spécialistes. Et donc, j'étais voir des nutritionnistes, bon nombre de thérapeutes, psychologues. Et finalement, chacun me disait, il faut rester positif. Il faut vraiment que vous restiez positive. Et il faut commencer à voir le bon côté des choses. Et vous savez, quand vous êtes dans un état tellement au fond du bac, quelque part, au bord du gouffre, et que vous n'avez même plus l'énergie de penser à quelque chose de positif, lorsqu'on vous dit cela, à un moment donné, moi en tout cas, ça m'a amené une extrême colère. Mmh. J'en pouvais plus d'entendre rester positif. Je me disais, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on ne me donne jamais le droit d'être totalement dans ma dépression? Pourquoi est-ce qu'on ne me donne pas totalement le droit d'être dans cette tristesse? Pourquoi est-ce qu'on ne me donne pas le droit? Mais non, c'était pas pourquoi est-ce qu'on ne me donne pas le droit, c'était pourquoi est-ce que je ne me donne pas le droit.
Ouais.
Et c'est là où j'ai eu ce déclic, vraiment. C'est là où je me suis dit, mais Nasrine, le problème, il n'est pas dans l'interconnexion ou dans la relation que tu as avec l'autre et qui va te donner des conseils. Il n'y a que toi qui puisses te sortir de la situation, ou plutôt, il n'y a que toi qui puisses accueillir cette situation. Il n'y a que toi qui puisses faire la paix avec ton corps, ton mental, ton système émotionnel, avec cette merveilleuse équipe terrestre. Donc, c'est à travers cette colère, à un moment donné, que ce voile s'est déchiré et que j'ai pu passer d'un état de lutte, de gestion, donc, de contrôle, de vouloir maîtriser tout, à un état d'abandon fondamentalement à ce qui est. À être à nouveau en paix, finalement, avec ce qui est.
Ouais. Alors,
donc, je remercie tous ces thérapeutes.
Oui, qui d'une certaine façon vous ont tendu la main, mais qui ont échoué. Et vous avez décidé de mettre au point, je ne sais pas si vous acceptez le mot d'ailleurs, une méthode.
Ah oui, alors vous savez, je mets une méthode pour qu'on puisse se comprendre. Mais il ne s'agit pas d'une méthode, à vrai dire. Pour moi, la nutri-émotion, c'est une philosophie de vie, même je dirais bien plus que cela, c'est quelque part revenir à une relation que nous avions avec notre corps, notre mental, notre système émotionnel lorsque nous étions enfants, en bas âge. Je me réfère ici à nouveau à ce pouvoir d'accueil parce qu'il est le pilier sur lequel la micro-émotion a été construite. Donc je ne veux pas vraiment parler de méthode. J'ai utilisé ce mot parce que le livre, la micro-émotion, retranscrit un fil rouge de ma manière, finalement, quelque part, d'accompagner les gens. Mmh. Donc, quand parce que je recevais trop de demandes pour les consultations, à un moment donné, je me suis dit, je vais retranscrire cela de la meilleure manière qui soit. Puis, je me suis par la suite dit qu'on pouvait appeler cela comme une méthode parce qu'on passe par différentes étapes, par différents processus de transformation. Et que je retrouvais chez la quasi-totalité des personnes que j'accompagnais. Donc, je pouvais quelque part appeler cela une méthode parce que ça s'appliquait vraiment à toutes ces personnes que j'accompagnais. Mais c'est fondamentalement une philosophie de vie qui n'aspire qu'à une seule chose et qui est la liberté.
Ouais.
Redonner la liberté à notre corps de s'exprimer, redonner la liberté à notre mental d'être comme il est, c'est-à-dire autant positif que négatif, agité, apeuré, je crois que ça fait partie de la dimension humaine que d'être aussi en contact avec ce genre d'énergie et de permettre aussi au système émotionnel de s'exprimer à nouveau librement en évitant la gestion émotionnelle. Cette gestion émotionnelle qu'on m'avait tant invité quelque part à appliquer, moi, quand je consultais les thérapeutes et les psychologues, ils me disaient « mais il faut gérer vos émotions ».
Ouais.
C'est là où je me suis rendu compte, en fait, il y a beaucoup plus simple que ça dans la vie.
Et y a un enseignement qui est central dans votre méthode, c'est le pouvoir de l'accueil. On en parlera, parce qu'on a un peu de temps ce matin, mais ça, c'est central, ce pouvoir de l'accueil chez vous.
Ah oui, absolument. Absolument, le pouvoir de l'accueil est, pour moi, du moins, est la voie, quelque part, la plus directe qui m'amène à être en paix avec ce que je suis à chaque instant. Donc c'est une paix que je vais retrouver peu importe les circonstances, que ce soit des problèmes physiques, maladies, même maladies graves, des perturbations au niveau du mental, une hypersensibilité émotionnelle. Le pouvoir de l'accueil me permet vraiment d'avoir une relation solide et harmonieuse avec ces trois entités qui me permettent d'expérimenter cette dimension. Et bon, quand j'utilise ce pouvoir de l'accueil, alors il m'est possible d'entendre les messages, justement, de mon équipe terrestre, corps, mental, émotion.
Corps, mental, émotion. Ça, c'est votre équipe terrestre. Nasrine, vous restez avec nous. Vous êtes avec nous jusqu'à 10h. Je rappelle que votre nouveau livre vient de sortir, La Nutri-Émotion, une nouvelle voie de guérison et d'épanouissement aux éditions Erol.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et mon invité ce matin s'appelle Nasrine Reza. Nasrine Reza, vous publiez La Nutri-Émotion aux éditions Erol. La Nutri-Émotion, c'est votre méthode, hein, et on en parlait tout à l'heure, basée sur son enseignement, le pouvoir de l'accueil. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment qu'on comprenne, et c'est une phrase qui résonne beaucoup dans votre vie, c'est la vie commence le jour où l'on cesse d'avoir peur de ne pas être aimé.
Absolument. C'est pour moi vraiment la phrase clé. Il est vrai que nous avons été quelque part, je dirais à l'échelle humaine, éduqués de manière à éviter la peur. Quand la peur apparaît, même chez l'enfant en bas âge, on va souvent lui insuffler l'idée qu'il ne faut pas avoir peur. Qu'il faut être courageux, qu'on peut maîtriser cette peur. Et le fait d'être déconnecté de cette peur nous déconnecte fondamentalement de notre système émotionnel, à travers lequel la peur est aussi une énergie naturelle et qui permet d'apprendre des choses, d'évoluer et de découvrir énormément aussi de choses qui font partie de notre nature humaine. Donc cette déconnexion-là avec la peur est quelque chose qu'on retrouve vraiment à l'échelle humaine, et ce depuis notre plus jeune âge. Et quand moi j'ai grandi, je me suis aperçue de cela assez rapidement, c'est-à-dire au moment où je me suis aperçue que j'avais ces capacités, entre guillemets, à déceler les informations qui se logeaient à l'intérieur de l'autre. Et c'est là où je suis entrée quelque part en combat avec cette peur. Fondamentalement, c'était la peur de ne pas être aimée. Il y avait la peur d'être jugée, la peur d'être rejetée. Mais si on observe toutes les peurs auxquelles nous sommes confrontés, on verra qu'elles ramènent toujours à cette peur de ne pas être aimée. Et il s'agit fondamentalement de ne pas pouvoir s'aimer soi-même.
Ouais.
Donc une fois qu'on arrive à cela, toute la vie change. Il y a tout qui s'adoucit forcément.
Mais cette peur de ne pas être aimée nous pousse à faire beaucoup de choses, par exemple.
Ah oui, tout à fait, Philippe. Cette peur de ne pas être aimée nous pousse à aller fondamentalement à contre-courant d'une énergie qui est la nôtre et qui est tellement unique au monde. On a 7 milliards d'individus, chacun est doté de sa propre fragrance, quelque part, possède sa propre énergie. Et la peur de ne pas être aimé, fondamentalement, nous coupe de notre savoir inné, de notre énergie et d'une sagesse qui nous est propre.
D'ailleurs, quand on parle de perte de poids, par exemple, Nasrine, pardon de vous couper, mais souvent, beaucoup de gens veulent perdre du poids parce qu'ils pensent qu'en perdant du poids, ils seront plus facilement aimés.
Exactement, Philippe, tout à fait. Vous mettez là le doigt dessus. En effet, il y a cet élan à faire des choses et qui finalement nous montre qu'on ne fait pas forcément telle chose, on ne veut pas forcément perdre du poids pour nous-mêmes, mais pour recevoir plus de reconnaissance, pour être aimé davantage. On ne fait pas forcément telles études, on ne choisit pas forcément tel chemin, on ne fait pas forcément tel choix pour nous-mêmes, mais toujours en lien avec cette peur de ne pas être connu, aimé, etc., etc. Donc, cette peur de ne pas être aimé, si on s'observe dans notre vie quotidienne, on la décèle très facilement. Dès l'instant où je me pose la question, mais est-ce que je fais ça pour moi fondamentalement? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est constructif pour moi et qui va m'amener à grandir? Ou est-ce que je le fais parce qu'il y a une peur quelconque? On verra que les réponses très souvent tendent dans cette direction-là, qui est la peur de ne pas être aimé. Et j'ai accompagné beaucoup de gens. Au début, quand je leur demandais pourquoi est-ce que vous souhaitez perdre du poids, pourquoi est-ce que vous souhaitez transformer votre corps, tout simplement, la réponse était toujours la même. Avec un peu d'introspection, elles se sont apparues, elles se sont rendues compte, pardon, que ce n'était pas fondamentalement pour elles, mais parce qu'elles avaient vraiment besoin d'être aimées.
Ouais, pour les autres.
Donc on ne nous apprend peut-être pas non plus à nous aimer dès notre plus jeune âge, ça faciliterait peut-être les choses.
Quand quelqu'un vient vous voir et vous consulter, parce que vous êtes connu pour ça, pour un problème de poids, par quoi est-ce que vous commencez? Comment est-ce que vous l'appréhendez, cette personne?
Alors, très cher Philippe, ça dépendra à chaque fois de la personne à nouveau, hein. Mais si je peux parler de manière générale, je vais déjà observer le degré, quelque part, de lutte qu'il y a. Donc, chaque personne est, quelque part, à un moment donné dans sa vie, confrontée à des problèmes qu'elle rejette, qu'elle va rejeter. Et ce degré de lutte, finalement, est la première chose qu'on va mettre en évidence. Donc, la personne va réaliser à quel point elle est sur le pied de guerre quand elle entre en contact avec cette énergie, qu'il s'agisse d'une maladie ou d'un embonpoint ou peu importe. Donc, on va déjà la rendre attentive à cela. Le fait de la rendre attentive à cela va lui permettre, à chaque fois qu'elle sera en guerre face à cet embonpoint, par exemple, elle aura le réflexe quelque part spontané que de se détendre au moment où la lutte apparaît, parce que la lutte crispe le corps physique. Et la crispation du corps physique génère davantage de déséquilibre. Donc ce qu'on veut éviter finalement dès le départ, c'est générer davantage de lutte qui va déséquilibrer davantage le corps physique. Mmh. Donc on va la rendre attentive à cet état de lutte qui règne en elle.
Alors, vous parlez pas de surpoids, hein, vous parlez d'embonpoint, d'ailleurs, dans votre livre. Vous écrivez que le problème de l'embonpoint ne trouve pas sa source dans l'alimentation. Mais bon, vous tempérez en disant que finalement, c'est pas de laisser croire que c'est pas l'alimentation qui fait grossir, mais finalement, c'est pas le problème central.
Exact, Philippe. On met vraiment ça en évidence dans ce livre parce que l'aliment lui-même n'est jamais problématique. Ce qui est problématique, c'est l'attitude dans laquelle je suis quand je vais manger. Alors, quelqu'un qui veut perdre du poids, en règle générale, il sera stressé par le fait d'absorber des aliments. Et c'est cet état de stress qui génère de multiples déséquilibres au sein du corps physique. Donc, le fait de manger de manière relaxée, c'est ce qu'on fait aussi tout au début, hein, de l'accompagnement de la nutri-émotion, c'est qu'on va réapprendre quelque part à manger de manière relaxée pour que le corps physique puisse absorber les nutriments de manière appropriée et surtout pour qu'il n'ait pas besoin de stocker cet aliment. Fondamentalement, le corps physique va toujours stocker de l'aliment quand il est confronté à un stress. Parce que le stress lui demande tellement d'énergie de gestion qu'il n'arrive à ce moment-là pas à gérer ce qu'on est en train de manger. Et s'il n'arrive pas à gérer cela, il va simplement stocker ce qu'on va manger. Donc on veut vraiment rendre la personne attentive à cela, à que le problème n'est pas ce qui est dans l'assiette, mais c'est mon attitude intérieure. Si je suis relaxée lorsque je mange, fondamentalement, je fais là des résumés, ça paraît peut-être très simpliste a priori, mais si je suis détendue lorsque je mange, je mets toutes les chances de côté pour que mon corps physique puisse se rééquilibrer, utiliser ce dont il a besoin et évacuer ce dont il n'a pas besoin. Ouais. Fondamentalement, c'est aussi simple que cela. Mais le stress est tellement commun et est un aliment de base dans la vie de l'humanité qu'on ne se rend plus compte à quel point on est stressé. Et c'est pour ça que observer le corps, relier la personne vraiment à la sensation physique, à la respiration avant tout, hein, il s'agit ici d'une respiration ventrale quand on est relaxé, la rendre attentive à comment est-ce que son corps respire va reconnecter la personne au message du corps lui-même. Donc on veut vraiment recréer ces ponts dans la nutri-émotion.
Alors, vous dites que une des questions capitales qu'on doit se poser avant de démarrer une démarche de perte de poids, c'est pourquoi est-ce que je mange trop? Comment est-ce qu'on peut répondre à ce type de question?
Pourquoi est-ce que je mange trop? Je n'ai pas compris votre question, très cher Philippe.
Parce que vous dites qu'on doit, on doit se poser cette question, savoir répondre à la question pourquoi on mange trop. Mais comment on fait pour répondre à cette question? Est-ce que les gens savent pourquoi ils mangent trop? Est-ce qu'ils en ont conscience? Alors, et d'abord, est-ce que les gens ont conscience de manger trop, d'ailleurs?
Oui, oui. Voyez-vous, pourquoi est-ce que je mange trop? La personne, en règle générale, toutes celles du moins que j'ai pu accompagner, me disait qu'elle mange trop, qu'elle mange quand elle n'a pas faim, qu'elle mange pour compenser. Donc, tous ces mécanismes-là, très cher Philippe, si on ramène notre attention un peu sur nos comportements dans notre vie quotidienne, il n'est pas difficile de mettre ces éléments-là en lumière. Il n'est pas difficile de se rendre compte qu'on mange par compulsion, qu'on mange par ennui, qu'on mange parce qu'on est stressé. Et donc, on mange trop, fondamentalement.
Oui.
Donc, il est facile, quelque part, de mettre cela en lumière. Après, le fait de se poser cette question aussi, hein, qu'on retrouve dans la nutri-émotion, dans le livre, nous permet déjà de nous mettre en contact ici avec le système émotionnel, parce qu'on verra fondamentalement que c'est toujours en lien avec une émotion. Il s'agit ici de la peur, qu'on peut appeler le stress aussi. Donc ouais. On verra qu'on va manger trop pour étouffer un stress, manger quand il y a de l'ennui. Alors on a peur d'être dans l'ennui, on a peur, peu importe, on va toujours vouloir combler quelque chose. Et le fait de combler quelque chose nous empêche fondamentalement d'être à l'écoute des messages de notre équipe terrestre.
Ouais.
On met ça en premier plan, vraiment.
Oui, et la nourriture devient un mécanisme de gestion des émotions dans ces cas-là.
Exactement, Philippe, exactement. Et je crois que beaucoup d'êtres humains vivent à travers cette dynamique, hein, parce que, enfin, je veux dire aussi... à la télé, combien de publicités, est-ce qu'il n'y a pas, mange un bout de chocolat et tout ira mieux. On a beaucoup associé le bien-être à une absorption d'aliments ou d'autres formes de consommation, mais là, en l'occurrence, il s'agit de l'alimentation. Et on a souvent fait croire à l'être humain qu'en absorbant tel aliment, tout ira mieux. Donc, il s'agit de mécanismes qu'il faut mettre en lumière pour que nous puissions nous libérer de ceci et pour que nous puissions permettre à notre corps physique d'ingérer la quantité d'énergie dont il a véritablement besoin. Et je crois que si on n'est pas un sportif de haut niveau, je ne pense pas qu'un corps physique ait beaucoup besoin de manger. Après, quand je dis beaucoup, c'est relatif, bien évidemment.
Mmh.
Mais il a surtout besoin d'eau.
On parlera.
N'est pas vraiment mis en évidence.
Voilà, on va parler Nasrine de l'eau dans un instant. Nasrine Reza est l'invitée d'À votre santé jusqu'à 10h. Et vous publiez, Nasrine, la nutri-émotion, une nouvelle voie, de guérison et d'épanouissement et le pouvoir de l'eau et des émotions dont on parlera dans un instant. Votre livre est publié chez Erol.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, la nutri-émotion, c'est le nom de la méthode que je vous propose de découvrir ce matin, mise au point par Nasrine Reza, qui est notre invitée. Nasrine, vous nous disiez que l'eau, tout à l'heure, est au centre de votre méthode. Quel est le rôle de l'eau?
Alors, l'eau a beaucoup de rôles. Je pense qu'on en est qu'au début de nos découvertes. Mais l'eau est la source, la première source d'énergie pour le corps physique, puisque le corps physique est essentiellement constitué d'eau. Mmh. Donc l'eau est l'énergie qui va permettre au corps physique d'accomplir toutes ses fonctions, hein, des plus basiques, comme parler avec vous maintenant, très cher Philippe, à réfléchir, à ressentir des émotions, à faire fonctionner tous les organes. L'eau n'est donc pas seulement un solvant, comme on a pensé au départ. Elle est vraiment une source d'énergie qui permet à chaque cellule de fonctionner. L'eau permet aussi d'interconnecter toutes ces cellules entre elles pour qu'elles puissent recevoir les informations qui sont en lien avec son environnement. Donc je dis toujours, la santé fondamentalement repose sur la libre circulation des informations au sein de notre corps. Donc la santé veut dire quoi fondamentalement? C'est-à-dire que si j'ai pas assez d'eau dans mon corps qui interconnecte toutes mes cellules, mes cellules ne peuvent plus communiquer ensemble. Et si mes cellules ne peuvent plus communiquer ensemble, elles ne peuvent pas œuvrer ou aller dans une même direction pour maintenir l'homéostasie. Donc, l'eau a vraiment pour fonction de créer des ponts entre chaque cellule pour que mon organisme, dans son ensemble, puisse au même moment recevoir les mêmes informations et œuvrer dans la même direction.
Alors, vous dites
Donc, c'est une des choses principales.
Oui, ouais, vous expliquez, Nasrine, que la première chose à rééquilibrer, c'est la masse hydrique. Une question que beaucoup d'entre nous se posent, c'est mais combien est-ce qu'il faut boire par jour ?
Alors, ça dépend à chaque fois de la personne. Ça dépend de son état physique. Ça dépend surtout de son état de stress. Si cette personne est très stressée dans sa journée, elle va forcément être plus déshydratée que quelqu'un qui est beaucoup plus relaxé. Ça dépend aussi de son système émotionnel. Donc, tous ces éléments-là, moi, quand j'accompagne la personne, ce sont tous des éléments que je dois prendre en compte avant de lui offrir, de lui proposer un programme d'eau qu'on va utiliser pendant un certain temps. Ça dépendra à chaque fois aussi de la personne.
Qu'est-ce que vous appelez un programme d'eau ?
Un programme d'eau, en fait, c'est comment boire de l'eau, combien d'eau au minimum et comment boire de l'eau. Comment est-ce que je vais répartir ma consommation d'eau sur une journée ? C'est ça, un programme d'eau. Et donc, ça dépend à chaque fois de la personne. Mais on peut partir du principe, il y a des principes très simples à observer, c'est que le matin, quand je me réveille, je suis déshydratée. Parce que durant toute la nuit, mon corps n'a pas bu d'eau. Donc, la première chose que j'invite toujours à faire le matin, c'est de boire de l'eau tranquillement, avant d'ingurgiter autre chose. Or, les gens souvent ont tendance à se lever trop rapidement, d'être directement pris par le stress et de boire vite un café. Or, le café déshydrate aussi. C'est pour ça que souvent, quand on va au bistrot, le café nous est servi avec un verre d'eau, parce qu'on sait que le café déshydrate. Donc, la toute première chose que j'invite à faire déjà, c'est de commencer par boire de l'eau. Cela va permettre au corps physique d'éliminer les toxines qu'il a accumulées durant la nuit. Mais cela permet aussi au mental d'être beaucoup plus apaisé. Parce que si mon corps physique est hydraté, mon corps va être relaxé parce qu'il a assez d'eau. Il peut donc fonctionner tranquillement. Et cet apaisement physique va naturellement aussi apaiser mon mental et donc mes émotions. Donc tout commence toujours par le corps et par l'eau ici en l'occurrence.
Oui. Mais et en plus ensuite vous conseillez de faire une pause. On boit, mais avant de manger, on laisse passer au moins une demi-heure, quoi.
Exactement. On laisse passer une demi-heure. Pourquoi ? Parce qu'on confond très souvent la faim avec la soif. Ça passe par le même symptôme, hein. Cette tension qu'on a au niveau de l'estomac, ces gargouillements qu'il peut y avoir même au niveau de l'intestin. On associe cela très souvent à la faim. Or, ça peut aussi être un symptôme de la soif. Donc, j'invite toujours à boire de l'eau tranquillement et puis après d'attendre une demi-heure. Comme ça, au bout d'une demi-heure, je peux voir comment le symptôme évolue. Je peux vraiment faire la distinction entre c'était de la soif ou c'est de la faim. Donc, si le symptôme continue dans ce sens, si ça continue à gargouiller, si j'ai toujours cette sensation que j'appelle la faim, si au bout de 30 minutes, elle est toujours là, c'est que mon corps physique a véritablement faim. Mmh. Mais au préalable, je vais d'abord le nourrir avec de l'eau. Comme ça, je recouvre l'essentiel de ses besoins énergétiques.
Ensuite, ce qui est intéressant, c'est la façon dont vous abordez le contrôle de la nourriture. Donc, est-ce que pour perdre du poids, il convient de réduire les quantités qu'on mange et de contrôler ce qu'on mange.
Donc vous dites que c'est en contrôlant, vous dites, très cher Philippe, j'ai pas compris, excusez-moi.
Ma question, c'est de dire, finalement, vous avez une approche sur le contrôle de la nourriture et sur le contrôle des quantités à manger pour perdre du poids. Donc, comment on doit approcher en se disant, ben voilà, si je veux perdre du poids, il va falloir que je réduise ma quantité de nourriture de 10, 20, 30%?
Non, alors, au fait, pas du tout. Donc, la nutri-émotion n'invite pas à une réduction de l'aliment, n'invite pas à contrôler. La nutri-émotion invite, à l'inverse, à ne plus être dans le contrôle. C'est-à-dire que dès l'instant où je vais nourrir mon corps physique avant tout avec cette première source d'énergie qui est l'eau, ma sensation de faim va être régulée. Je vais être nourrie par une forme d'énergie première qui est l'eau. Donc j'aurai beaucoup d'énergie. je vais être apaisée mentalement et émotionnellement. Et de ce fait, je n'aurai plus besoin d'aller compenser avec un aliment. Je n'aurai plus besoin d'aller me déstresser en mangeant toute ma tablette de chocolat parce que je serai apaisée par le fait d'avoir bu de l'eau. Donc, il ne s'agit pas du tout ici d'aller réduire ou de vouloir contrôler parce que le contrôle, c'est un état de lutte. Et la lutte génère du stress. Et le stress est le pire ennemi pour notre équipe terrestre. Le stress est pour moi le cancer du monde. Et le stress déshydrate notre corps physique de manière non négligeable. Et toute forme de déshydratation va amener des mécanismes de compensation comme une augmentation des cellules graisseuses. Donc l'invitation fondamentalement ici, très cher Philippe, c'est vraiment de sortir ce contrôle, de sortir de l'idée qu'il faut faire un régime pour perdre du poids. Parce que même si on essaye, moi j'ai accompagné bon nombre de personnes qui faisaient des régimes aussi, qui me disaient je perds et puis après je reprends et ça fait l'effet yo-yo. Et en plus de ça, ça va perturber énormément de mécanismes vitaux au sein du corps physique, ce régime, cet effet yo-yo. Donc mon invitation ici est toujours la même, c'est arrêter de lutter. Mais pour arrêter de lutter, pour me sortir du stress, il faut que je m'occupe de mon corps physique. Et la première aide, c'est vraiment de lui apporter de l'eau sur une base régulière. Alors moi j'invite chaque 2 heures, systématiquement, présentons de l'eau au corps physique. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'obliger à boire, pas du tout. On va fermer les yeux, se mettre en contact avec le corps physique. Et puis on va lui présenter de l'eau. Et peut-être qu'il va boire une gorgée, peut-être qu'il va boire 3 verres d'eau. Je ne sais pas, ça dépendra de ce qu'on aura vécu jusqu'ici.
Oui. L'idée, ce n'est pas d'être avec sa bouteille toute la journée, à boire toute la journée, en fait.
Non, exactement, très cher Philippe. Il ne s'agit pas de se noyer dans l'eau, pas du tout. Il s'agit d'avoir de l'eau à disposition et d'en présenter de manière régulière. Et je dirais surtout quand il y a des pics de stress dans notre journée. Parce que les pics de stress dans notre journée nous indiquent que notre corps est déjà en train de se déshydrater. Un corps physique qui est bien hydraté est un corps physique qui ne connaît pas le stress. Il est là finalement le raccourci. Donc si je ne veux plus être stressée par les circonstances de ma vie, il faut que j'absorbe de l'eau. Parce que l'eau est un anti-stress par excellence.
Qu'est-ce que vous faites de la question de la volonté pour perdre du poids?
Certes, la volonté joue un rôle primordial dans le sens où cette volonté, il est important de se demander ce qu'est la volonté. Et pourquoi est-ce que j'ai la volonté d'entamer telle démarche? Parce que finalement, derrière toute notion de volonté, se trouve de la peur.
Oui.
Sinon, je peux faire les choses de manière décontractée, sans volonté, parce que c'est une évidence pour moi de fonctionner comme ça, parce que je sais que c'est bon et juste pour mon équipe terrestre. Donc la volonté nous montre simplement qu'il y a un état de stress, qu'il y a de la peur non accueillie. Et nous accueillons la peur aussi par le biais d'absorber de l'eau. Vous savez, très cher Philippe, souvent je donnais l'exercice aux gens qui étaient, mais quand tu bois de l'eau, imagine que c'est de la peur. Imagine que cette eau représente la peur que tu as vécue aujourd'hui et que tu as rejetée. Et donc là, cette peur qui est cette eau, bah, tu vas l'absorber, tu vas l'accueillir physiquement. Donc très souvent, on utilise ces exercices qui sont de l'accueil physique fondamentalement pour permettre à la personne de rentrer à nouveau en contact avec la peur. Parce qu'il n'y a rien de mal à avoir peur, c'est une émotion humaine. Mais si je lutte contre, ma vie, au bout d'un certain temps, va ressembler à un champ de bataille. Et je vais perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Et ça peut aussi me rendre malade.
C'est de la résistance après.
Exact, exact.
Mais alors,
tellement de résistance.
Ouais. Il y a beaucoup de résistance. Alors, quelle est la première qualité, selon vous, pour atteindre un objectif de perte de poids? Si c'est pas que la volonté.
L'objectif premier ici.
Comment, de quoi on a besoin pour atteindre son objectif? et finalement de l'inscrire dans la durée.
Oui, oui. On a fondamentalement besoin de se recentrer sur nous-mêmes. On a fondamentalement besoin de redevenir notre priorité.
Mmh.
On a fondamentalement besoin de retrouver cet amour propre, cette dignité, ce respect de soi. C'est ça le moteur, fondamentalement. Et
est-ce...
ça...
Ouais.
Oui, vous dites-moi.
Non, non, allez-y.
Et cet élan-là de pouvoir s'aimer à nouveau est quelque chose qui nous habite à chaque instant. Parce que tout ce que nous faisons dans notre vie quotidienne, même si c'est à contre-cœur, on le fait fondamentalement pour pouvoir s'aimer à nouveau. On croit que c'est par la reconnaissance d'autrui qu'on va pouvoir parvenir à cet amour propre. Mais il n'y a que moi qui puisse m'offrir cet amour dont j'ai tellement besoin pour pouvoir vivre une vie épanouissante.
Ouais. Alors vous
donc la première chose qu'on va... Oui, dites-moi, Philippe.
Vous proposez pour ça, et je voulais qu'on s'arrête là-dessus, mais un exercice... de se mettre devant la glace.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on fait devant la glace, Nasrine ?
Alors, une fois qu'on est devant la glace et dans l'idéal, on va se mettre nu devant un grand miroir pour qu'on puisse bien voir les contours de ce corps et se mettre en contact avec le corps, mais aussi le mental et le système émotionnel. J'aimerais juste, pendant un certain temps, au début, qu'on observe simplement tous les jugements qu'il y a face à ce qu'on va voir ici dans ce reflet. On peut même utiliser des petits post-it et aller coller à chaque fois qu'il y a un jugement, aller coller cela sur le miroir pour se rendre compte à quel point, ou combien sont nombreux ces jugements qu'on projette sur ce corps physique, sur le mental et sur le système émotionnel. Puis après, l'exercice consiste à se poser cette question-là. Cette étiquette que je suis en train de projeter, ce jugement que je suis en train de faire face à ce corps physique, est-ce que je suis née avec ce jugement? Est-ce que dès les premières années de vie, je me suis dit qu'il était trop gros, trop moche, qu'il avait trop de bourrelets, qu'il était trop malade, trop vulnérable, trop fragile? Est-ce que je suis née avec l'idée que mon mental est imparfait, qu'il est trop agité, qu'il est trop déséquilibré? Est-ce que je suis née avec l'idée de me dire que la peur est néfaste, que je dois gérer mes émotions? Cet exercice sert fondamentalement à observer que tous ces jugements que je suis en train de projeter sur ce reflet ne sont pas les miens. Ils m'ont été inculqués par une société qui aspire à une notion de perfection totalement illusoire. Et que, toutes ces étiquettes, finalement, m'empêche d'être totalement à l'écoute de mes réels besoins. Et mes réels besoins n'ont rien à voir avec ce qui est inscrit sur chacune de ces étiquettes.
Bien, alors on va faire l'exercice, hein, pour ceux qui le sentent. Devant la glace, Nasrine Reza, on arrive au terme de cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous, Philippe.
Voilà, la Nutri-Émotion, une nouvelle voie de guérison et d'épanouissement. Je vous invite à lire la méthode de Nasrine. L'éditeur, c'est Erol. On vous laisse retourner à votre Brésil. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo de l'émission sur la chaîne YouTube et passez une très belle journée santé sur beurrefm. Au revoir, Nasrine.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.